France Bleu RCFM. France Bleu.
Qui est là?
Help.
Help qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzi.
Top Top.
Je vous rappelle simplement que le préfet de Corse, le préfet Riolacci, qui était corse d'ailleurs, à propos de ce livre, a dit « c'est un brûlot ». Et qu'est-ce qu'on fait des brûlots? On les éteint. Donc je peux vous dire de source certaine que la préfecture a acheté tous les exemplaires qui étaient en librairie et les a stockés. Donc c'est pour ça que ce livre a été publié à un nombre d'exemplaires assez important, mais distribué dans le public très peu. Parce que le reste a été stérilisé par un achat massif de la préfecture de la Corse.
Je pense qu'il viendra des jeunes auteurs dans les 20 ans qui viennent, des gens, j'espère, bien formés, éduqués à l'art et qui dessineront mieux que nous.
Gageons que les artistes continueront à lutter pour faire porter la voix d'un peuple à travers leur création.
Et ce choix, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler aujourd'hui une perspective d'écologie politique.
Le prix Goncourt 2012 a été décerné au deuxième tour de scrutin au roman de Jérôme Ferrari, Le Sermon sur la montagne d'Europe, Acte Sud.
Je me sens un peu comme un lapin dans les phares, mais j'avais vu des photos avant, c'est j'ai de l'autre côté. C'est étrange.
Bonsoir à toutes et à tous, vous venez d'entendre des extraits de deux films documentaires, Une vie après le Goncourt de Sébastien Bonifay, avec entre autres La voix de Jérôme Ferrari, qui a reçu le Goncourt non pas pour le sermon sur la montagne de Rome, mais le sermon sur la chute de Rome, et puis des extraits de Corse de Cases en Bulle, de Maëva Ganac et David Olivez, deux films qui sont produits par Mécano Productions. Pour en parler, nous recevons le producteur Jean-Jacques Thor, et bonsoir.
Bonjour à Marie.
Et merci d'être avec nous. Michael Andréani nous accompagne tout au long de cette heure. Bonsoir Michael.
Bonsoir Marie, bonsoir à tous.
Autre film que vous produisez, c'est le film RN 193. Nous avions reçu dans Toc Toc Lionel Dumas-Périgny pour nous parler de ce film. Et figurez-vous, chers auditeurs, que ces trois films sont sélectionnés pour le prix du film documentaire Corse au Festival Artemar qui démarre à Bastia le 5 octobre. Ça, c'est une véritable récompense, Jean-Jacques Thor.
Oui, mais le corollaire de cette récompense, c'est que j'ai appris que vous étiez membre du jury.
Ça, c'est moins bien.
Ça, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo pour nous.
Alors, ne dites pas ça, nous verrons bien. Mais c'est vrai que je ne peux pas me prononcer. Et vous avez eu la délicatesse de ne pas me demander lequel était mon préféré. En tous les cas, je ne les ai pas tous vus, donc je ne peux pas me prononcer pour le moment. Et surtout, je le dis haut et fort, je ne serai pas seule dans ce jury. Il va falloir donc compter sur les autres également. Pour Maëva Ganac et David Olivez, c'est un premier film. Pour Lionel Dumas-Périgny, c'est également un premier film. Qu'est-ce qui fait à un moment donné...
Et pour Sébastien, c'est un deuxième.
C'est un deuxième, oui, puisqu'il y avait eu le film sur Marco Biancarelli. Voilà. Qu'est-ce qui fait en tant que producteur qu'on croit comme ça à de jeunes réalisateurs, qu'on leur donne une chance? Est-ce que c'est un accompagnement particulier, plus difficile?
Effectivement, c'est plus difficile. C'est à la fois plus difficile et à la fois plus intéressant. D'abord de convaincre la chaîne qui doit nous faire confiance sur un écrit. Et quelquefois, les écrits des premiers films ne sont pas totalement aboutis. Donc c'est en ça que le rôle du producteur est passionnant, parce qu'il faut les aider à accoucher de leur œuvre et à accoucher d'un texte qui saura convaincre le diffuseur. Parce que le producteur, lorsqu'il est approché par les réalisateurs, il voit ce qui est écrit, mais il sent tout de suite dans le contact ce que le réalisateur a envie d'exprimer. Alors que le diffuseur qui achète le film ou qui le préachète, et de même pour les commissions qui aident les films comme le CNC ou la collectivité de Corse, c'est sur un texte et sur un écrit qu'il juge. Donc ça, c'est difficile d'accompagner les auteurs pour savoir convaincre justement tous ces gens-là. Mais je trouve que c'est aussi le plus intéressant, parce que...
C'est enthousiasmant.
C'est enthousiasmant, ouais. Et puis c'est de voir une génération de réalisateurs ou de gens tout simplement qui a envie de raconter une histoire à la première personne, je trouve que c'est passionnant. Je pense que c'est passionnant partout, mais c'est passionnant aussi en Corse quand on a une société de production audiovisuelle qui a envie d'observer, de raconter un peu l'histoire de cette société et de faire entendre des voix singulières au milieu de concerts de tout ce qui se réalise sur l'île, quoi.
Les thématiques qui vous interrogent, qui vous intéressent, qui vous font vous lever le matin avec Antoine Ganac au sein de Mécano Prod ont un point commun, me semble-t-il. C'est à travers l'art, l'écriture ou encore le dessin. Vous vous interrogez sur l'histoire de la Corse.
On en parlait justement
ou la
hier.
Musique encore.
C'est peut-être pas l'histoire de la Corse avec un grand H qui nous intéresse, mais c'est quand une petite histoire vient l'interroger en fait, quand un art, une personnalité, quand un fait de société vient interroger l'histoire de la Corse. Là, je trouve que c'est intéressant, même s'il s'agit souvent de l'histoire contemporaine de la Corse.
Pour Corse de cases en bulle de Maëva Ganac et David Olivesi, c'est saisissant. C'est saisissant à quel point l'histoire de la bande dessinée se frotte à notre histoire contemporaine de l'île.
Ah, ça c'est... Je pense que en regardant ce documentaire, on a une photographie de l'histoire du réacquiste, en fait, de l'histoire de la Corse et du réacquiste, de la façon que des auteurs plus ou moins jeunes ont eu envie d'utiliser un art qui était sans doute rarement utilisé pour s'exprimer. Parce que quand on parle de culture et de réacquiste, on a souvent tendance à résumer ça à la musique. Et c'est la musique qui est sans doute l'élément le plus voyant, si on peut dire, le plus audible des arts qui se sont exprimés dans le réacquiste. Moi, je trouve que...
Également parfois au dessin, aux caricatures, au dessin humoristique, mais rarement au 9e art, à la bande dessinée, c'est vrai.
Voilà, voilà. Et puis on peut parler aussi du théâtre ou du cinéma qui ont mis plus de temps, le théâtre assez rapidement, mais de façon un peu marginale, et le cinéma beaucoup plus tardivement, sans doute pour une raison aussi de moyens et de maîtrise de moyens techniques et d'outils techniques.
On entendait il y a un instant sur l'indicatif de Toc Toc, la voix de Tony Casalonga qui parlait de cet ouvrage absolument incroyable, qui avait été non pas saisi, ça a été fait avec plus de malice que ça, mais acheté pour la plupart par la préfecture.
Ah mais c'est incroyable parce que justement il y a des pans entiers de l'histoire contemporaine de la Corse que le grand public ne connaît pas et
moi
que
j'ai
seuls
découvert,
ces acteurs que on est nombreux à l'avoir découvert. Moi aussi je l'ai découvert à cette occasion-là et c'est d'ailleurs tout le travail je trouve qui est passionnant et minutieux parce que vous parliez de la relation qu'on a avec les jeunes
réalisateurs,
auteurs et les jeunes réalisateurs corses. Nous qui avons vécu ces périodes-là, mais aussi qui avons été des médiateurs culturels, parce que comme je le disais tout à l'heure en entrant dans ce studio, quand je rentre dans le studio de RCFM, je repense aux quelques années que j'ai passées à la radio et à ce micro, et on a l'impression de tout savoir en fait, parce qu'on a été ces médiateurs culturels et qu'on a passé des années à essayer de transmettre ce mouvement, ces mouvements culturels, à faire connaître ce qui se faisait au niveau de la création artistique, au niveau de la culture, etc., etc. Et puis tout d'un coup, quand ces jeunes réalisateurs arrivent et on leur dit, bon, alors il faut que tu ailles interroger un tel, et puis pourquoi tu as oublié celui-là? Et puis tout d'un coup, eux, ils arrivent avec des propositions alternatives. Donc déjà, on se dit, mais tiens, comment ils ont su que ça existe alors que moi, je l'avais oublié? Et en plus, ils arrivent à faire accoucher, je dirais, les gens qu'ils rencontrent de choses que peut-être, soit qui étaient passées sous silence, soit qu'on avait complètement oublié, et soit que leurs interlocuteurs ont envie de raconter, de transmettre à nouveau d'une façon. Et c'est en ça que je trouve, pour revenir un peu au début de notre entretien, c'est en ça que je trouve que c'est passionnant, parce que ces nouvelles générations-là viennent nous apprendre eux-mêmes, déjà, ils apprennent eux-mêmes, mais ils viennent aussi apprendre aux gens de leur génération, mais aussi aux autres, des choses qui étaient quelquefois pas connues, et surtout à travers leur prisme, c'est-à-dire que c'est aussi eux qui choisissent leur angle et et ce que eux veulent raconter de cette histoire, au-delà de se laisser accompagner par les gens qu'ils interviewent.
J'ai une question vraiment destinée aux producteurs, mais aux spectateurs également, puisque vous êtes avec Antoine Ganac, également producteur d'émissions de télé, beaucoup d'émissions de télé, des magazines également. Qu'est-ce qui fait la différence entre un magazine de télévision et une œuvre, un film documentaire?
La différence, elle se résume en épicerie, si vous voulez, on dirait ça, c'est une émission de flux,
oui.
Et l'autre, c'est une émission de stock. C'est-à-dire que un magazine, c'est une émission de flux, c'est une émission qui est c'est un peu péjoratif de dire ça, mais c'est une émission qui est jetable, qui fait le point sur, à un moment donné, même s'il y a des choix artistiques, des choix éditoriaux, mais c'est un point, à un moment donné, sur un regard, sur ce qui se passe à ce moment-là, et la semaine prochaine, on passe à une autre. Alors que et on essaye d'avoir une espèce de neutralité, pas tout à fait journalistique, parce qu'on n'est pas dans un angle de journalistique, mais on n'est pas en train de demander à ceux qui raconte cette histoire, d'avoir un regard singulier, de raconter leur histoire. C'est-à-dire que dans les documentaires, ce qui est intéressant, c'est justement la façon dont les gens s'approprient l'histoire. C'est-à-dire que dans le documentaire, c'est un fait. L'histoire, c'est la bande dessinée, ou c'est la Nationale 193, ou c'est
Jérôme Ferrat
pour le troisième. Mais ça, c'est le sujet, mais le propos, c'est qu'est-ce qu'on en dit de ça. Et ce que les gens, quand on parle de, par exemple, on en a parlé longuement avec Lionel Dumas-Périgny pour RN 193, il y a 100 films à faire sur la RN 193. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de la RN 193, il y a les questions de tout simplement autoroutières, il y a les questions tout simplement du réacquiste. Alors, le réacquiste à travers la RN 193.
Sans dévoiler la cuisine interne, puisqu'il l'avait dit au micro d'RCFM, Lionel Dumas-Périgny, il était parti au commencement sans vous, et justement les sujets étaient tellement vastes, il avait tellement de pistes qu'il a eu du mal à se réunir. Et c'est ça le rôle d'un producteur.
C'est ça, c'est que moi j'ai beaucoup d'amitié d'abord, et de respect et d'admiration pour Lionel, et on a même tenté de faire des choses ensemble, et je pense qu'on va en faire d'autres d'ailleurs, mais Lionel, il est comme moi, et il est comme Antoine, c'est un producteur. C'est-à-dire que vous regardez la liste des sociétés de production audiovisuelle en Corse, vous allez voir aussi bien les nôtres que la sienne. Ce que j'ai trouvé extrêmement touchant, c'est que lorsqu'il a senti qu'il avait envie de raconter cette histoire, qu'il voyait à peu près comment, mais qu'il ne savait pas comment resserrer son propos, et qu'il soit venu nous voir, et qu'il soit venu nous demander conseil, et qu'il nous soit venu nous demander aussi d'être libéré des contraintes logistiques, des contraintes financières, etc., juste pour pouvoir s'exprimer en tant que créateur, moi j'ai trouvé ça extrêmement touchant, et d'ailleurs c'est pour ça que dès la semaine prochaine il fait un deuxième documentaire qu'il va réaliser, toujours en production, en
avec
s'adressant
vous.
À nous comme producteur. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant de voir que au-delà de ce qu'il fait lui dans sa société de production audiovisuelle, il a besoin d'une certaine expertise, et qu'il a besoin d'une certaine expérience, et comme je vous disais, peut-être aussi de se libérer des contraintes du devis, du plan de financement, des trucs comme ça, pour pouvoir dire, ben là, maintenant, je filme, donc je soigne mon cadre, je soigne mon propos. Est-ce que ça, si j'aborde je suis encore dans mon sujet, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et ça, je trouve que c'est le travail le plus intéressant. Et pour nous, on parlait de la jeunesse des réalisateurs, mais pour nous c'est vraiment une fierté de voir qu'il y a des talents qui arrivent à se révéler comme ça en voulant être accompagnés par nous.
Justement, vous êtes également découvreur de talents, puisque Lionel, vous l'avez repéré au tout début de ses activités, et c'est pas le seul. Vous aimez bien tous les deux, Antoine et Jean-Jacques, vous aimez bien découvrir des
chercher
gens.
Le potentiel, ouais. Chercher le potentiel qu'il y a chez des gens. Lionel, on l'avait découvert dans tout simplement avec son blog via. On se disait, mais un jeune qui a envie de découvrir le monde, qui a envie de pas prouver quoi que ce soit sur son identité, etc., qui est ouvert, qui est enraciné, etc., ce jeune-là, il faut qu'on fasse des choses avec lui. Et on avait même réalisé pour une chaîne nationale le pilote d'un magazine de voyage qui n'avait d'ailleurs pas été accepté par cette chaîne-là, qui était un magazine qui était basé sur, non pas sur le paysage, sur la culture, etc., mais tout simplement sur la rencontre avec l'humain, parce que dans ce pilote-là, on se rendait compte justement de ce que Lionel voulait, c'est-à-dire aller au plus près de l'humain pour mettre au jour une société, quoi.
C'est d'ailleurs ce qu'il fait dans le film documentaire RN193, cette route que nous empruntons toutes et tous, parfois plusieurs fois par jour, sans jamais s'arrêter, en se questionnant sur ces lieux secrets. On l'a toutes et tous fait. Eh bien, Lionel, dans ce film, s'arrête pour nous. Et là, alors, on découvre des personnages absolument incroyables. C'est un film, si vous ne l'avez pas vu, que je vous conseille vivement.
Il sera diffusé prochainement. On n'a pas encore la date, mais il va être diffusé avant la fin de l'année sur Viasté. Là.
Vous êtes un red dingue de musique, mais on ne va pas en parler, on n'a pas le temps.
Non, je suis surtout red dingue de la voix mystère de Toc Toc, mais il paraît qu'il n'y en a plus.
Et non, parce que, alors je vois que vous nous écoutez avec fidélité, et je vous en remercie, puisque cela fait donc un mois et demi qu'il n'y a plus de voix mystère, voire plus, puisque je crois, Michael, vous allez témoigner pour moi, même à la fin de la première saison.
Depuis mi-juin.
Oui, Jean-Jacques est très occupé en même temps. Avant d'écouter Avilette, parce que je sais que c'est un groupe parmi d'autres qui vous tient particulièrement à cœur, et on expliquera pourquoi, Michael, vous vous êtes intéressé, vous, à notre histoire, à travers les livres.
Oui, à nos auteurs corses qui ont brillé, qui continuent de le faire grâce à leurs œuvres. Choix, personnel, subjectif, pas du tout exhaustif. Alors j'ai voulu débuter par un personnage que l'on revendique bien de chez nous, car né, selon la légende, à Calvi, Christophe Colomb. J'aime bien jouer les mythos de temps en temps. Donc on retiendra deux volumes de sa part de la découverte de l'Amérique, qui constitue l'édition la plus complète des écrits du navigateur, qu'il s'agisse de son journal de bord ou d'écrits divers. On ne sait même pas si d'ailleurs un jour il s'est arrêté à Calvi. Bon, bref. Autre grand personnage et qui lui a, et c'est une certitude des origines corses, puisque son père était de Brande, donc plus au village de Corse selon Marie Bronzine, Paul Valéry. Parmi les dizaines d'ouvrages publiés par l'écrivain, poète et philosophe, on citera notamment La Jeune Parc, Le Cimetière Marin ou encore Charme, nos contemporains désormais. Avec de la BD, on en parlait justement avec un jeune, Jules Stromboni, qui a été formé à l'école Gobelin à Paris. Il a participé à la réalisation du Persepolis de Marjane Satrapi, qui a été prix du jury du Festival de Cannes d'ailleurs. Il collabore avec Sfar, Winchus ou Tardi et a signé chez Casterman avec Olivier Cotte, Le Futuriste, L'Ultime Défi de Sherlock Holmes ou encore Matsir, pour se rapprocher un peu plus de la Corse.
Puis-je vous interrompre, parce qu'il y a des images avec Matsir dans le film Corse de Cazembule absolument extraordinaire, où le drone comme ça surplombe une forêt et là on a paf les dessins de Jules Stromboni et c'est absolument magnifique, voilà, dans ce film. C'est ça qui fait œuvre aussi par rapport à un magazine. Je vous en prie, continuez.
Un peu plus ancien désormais, Jean-Noël Pancrade, écrivain qui est né en Algérie, à qui on doit de nombreuses œuvres primées, Le Passage des Princes, Les Quartiers d'Hiver, Long Séjour ou encore Corse aux éditions du Seuil, qui est une suite de Long Séjour, un texte sur l'histoire de son île et sur son père.
On avait fait un documentaire sur Jean-Noël
Pancrade. J'allais le dire.
Cascabem, mais voilà, du moins qu'on va ta poste.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Je vous le jure, c'est la chance du débutant.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Maintenant que j'affectionne particulièrement pour son franc-parler, son regard critique sur ce que nous sommes corse et puis sur son style, c'est Marco Biancari, le Porti Vitiaccio.
On a fait un documentaire, tiens, sur la rue.
Oui,
c'est
étrange. Différents succès pour Marco, comme l'appellent les intimes, après Pridione, Ricincontu Nupe, Gazi ou encore Stremo Meridian, ou grand succès en Corse, des romans bilingues d'ailleurs, tous les trois, tous publiés chez Albian, qui ont été traduits par Jérôme Ferrari, ça permettra d'arriver sur la suite. Le professeur donc Marco Biancarelli de langue et culture corse a franchi un cap en signant chez Actes Sud différents ouvrages comme Mourtoio, qui a été aussi un beau succès littéraire, Orphelin de Dieu ou encore Massacre des Innocents. Et on termine, Marie, donc avec deux auteurs de deux générations différentes. Le premier compagnon de route de Marco Biancarelli, justement Jérôme Ferrare, notre cher prix Goncourt 2012 pour Le Serment sur la chute de Rome, non pas Le Serment sur la montagne de Rome, comme on parlait tout à l'heure. Sans oublier plus récemment aussi l'excellent À son image, qui a été prix littéraire du journal Le Monde en 2018. Et enfin, l'écrivain, journaliste et critique littéraire à la plume acérée, Angelo Rinaldi, 79 ans, élu à l'Académie française en 2001. Prix féminin en 71 pour le roman La Maison des Atlantes, l'un des plus grands hommes, tout simplement, de lettres que la Corse puisse compter. Même si, à vrai dire, être franc, c'est la vérité. Il n'a jamais été vraiment très tendre avec la terre qu'il a vu naître et grandir et son peuple sous ses différents aspects, quand même.
Un Goncourt, un académicien et un Goncourt. Vous n'auriez pas fait un documentaire sur Jérôme Ferrare, Jean-Jacques Thor?
Oui, mais c'était justement l'idée du film sur Jérôme Ferrare. C'était presque quand on a commencé à travailler avec Sébastien Bonifay sur le film sur Marco Biancarelli. En gros, c'était le package. J'ai dit à Sébastien, moi, j'aimerais bien qu'on fasse ce film sur Marco Biancarelli et qu'on fasse aussi dans la foulée un film sur Jérôme Ferrare.
Et, voilà. Et ça s'appelle donc Une vie après le Goncourt. Vous restez avec nous, Jean-Jacques Thor. Vous êtes notre invité dans Toc Toc jusqu'à 18h. Et voici Avileta. C'était difficile de choisir un morceau pour vous faire plaisir. Et après mûre réflexion, je me suis dit que celui-ci vous conviendrait, car n'importe quel morceau d'Avileta pourrait vous convenir, puisque je sais que vous les avez beaucoup suivis et depuis de longues années, et notamment aux rencontres polyphoniques de Calvi. Voici Malagne.
je raconte dans tes lignes. Comme rigolo, joie d'allégrie.
Ville est avec Malania, un texte tient de Giacomo Vousine, à auteur également insulaire. Et on n'a pas parlé de Jacques Thiers également. Il y en a beaucoup des auteurs chez nous. Et c'est pour cette raison également que Jean-Jacques Torre s'intéresse aux auteurs à travers donc différents documentaires, puisque vous le disiez, vous aviez fait un documentaire sur Jean-Noël Pancrady. Et puis là, Une vie après le Goncourt de Sébastien Bonifay et Corse de Cazembulle de Maëva Ganac et David Olivez. Donc sur des auteurs de bandes dessinées. Vous avez toujours suivi les poètes, les auteurs insulaires, Jean-Jacques ?
Ben disons que c'est un peu par force. Non, je plaisante, mais je.
Vous parlez de
Jacques Thiers et de Jacques Vousine, sur lesquels on n'a pas encore fait de documentaire. Mais bien sûr, vous imaginez bien que les projets sont dans le cartable. Mais Vousine et Thiers, c'était mes profs quand j'étais à l'université dans les années 80. Donc Thiers pour la linguistique et la sociolinguistique, et Fousine pour la littérature.
Vous faites partie de la première promotion, me semble-t-il, de l'Université de Corse ?
De la première promotion, la deuxième promotion, deuxième puisque je suis arrivé un an après l'ouverture,
ouais.
Mais de la première promotion des études corses.
D'accord.
Et ensuite de la première promotion du CAPES en 91. Donc c'est un peu... Disons que j'ai l'impression d'avoir orienté mes études par rapport à mes choix ou à mes engagements. C'est pour ça que cette création artistique, cette création culturelle, elle m'intéresse particulièrement. Vous parliez de Avileta et de la musique en Corse. On s'y intéressait aussi, non seulement en tant que militant, parce que ça accompagnait nos vies, en fait, hein, mais on s'y intéressait aussi parce que c'était nos objets d'études, en fait, à ce moment-là.
Concrètes, oui.
Concrètes. Et puis après, quand on est devenu prof de Corse, ben, c'était quoi qu'on faisait étudier aux élèves ou aux étudiants? C'était forcément des textes de Fousine ou de Thiers, ou après d'auteurs plus contemporains.
Vous avez réalisé un documentaire également sur l'artiste Frédéric Pouge.
Ah oui. Ah oui, mais ça c'était le choix de faire le c'est parti d'une plaisanterie avec Frédéric Pouge, parce que en fait au Sapientogne, un jour il y avait une question sur lui, et il plaisantait sur les réseaux sociaux en disant mais maintenant si je suis de mon vivant on parle de moi au Sapientogne. Et donc je lui ai dit bientôt on fera un documentaire sur toi,
ouais.
et il a dit on s'est mis au défi en fait de le faire, et en fait au-delà de donner la parole à travers à des jeunes réalisateurs sur des sujets contemporains, je me suis dit mais pourquoi ces jeunes-là, on ne les ferait pas connaître au-delà de ce qu'ils montrent sur scène? Parce que je me suis dit qu'il y avait la partie de l'artiste, mais il y avait aussi toute une partie de leur engagement militant, de leur travail, qui me semblait intéressante à montrer.
De Bodjevent.
De Bodjevent, mais aussi de Fred Pouge, ouais. Lui-même, qui est un pur enfant du réacquiste. Je trouvais que c'était intéressant parce que quand je vois un peu le CV de Fred Pouge, je me dis mais Fred, c'est le leader du groupe Bodjevent, il est prof de Corse, il réalise des musiques de films, en même temps demain il organise une manifestation pour demander la libération des indépendantistes catalans, et puis ensuite
il fait
une chanson sur le commandant Massoud, et puis après il est comédien, il va faire une comédie musicale où il chante même pas encore. C'est ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ce, qu'est-ce qui le pousse? Et à chaque fois que qu'on lui parle de son talent d'artiste, et c'est, il répond toujours avec une modestie. D'ailleurs, le premier titre qu'on avait donné à ce film, c'était l'artiste qui se voulait artisan, comme c'était une
oui.
Il veut jamais montrer qu'il a un vrai talent d'artiste, comme si tout était naturel, que si tout était du collectif, que c'était pour donner un coup de main, etc. Et il s'abrite derrière souvent ce collectif pour faire passer quand même un message très très singulier. Je me suis dit que c'était intéressant aussi de le faire connaître davantage et de montrer cette génération-là aussi aux téléspectateurs.
Et encore une fois, si je puis me permettre, une histoire, une petite histoire singulière d'un individu extraordinaire qui nous raconte aussi notre propre histoire contemporaine. Moi, j'ai appris plein de choses avec ce documentaire sur Fred Poggi. On est encore dans cette thématique qui vous anime au sein de Mécanoprod. Vous avez croisé beaucoup d'artistes, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup pensé au potentiel des uns et des autres, et du coup, vous vous êtes dit, mais comment faire passer cette langue? Alors, pourquoi pas avec une émission pour les enfants? On pense à Francine Massiani et à la Fabrique Kutch, avec de la musique, du théâtre, des sorties plein air. Tiens, on peut faire passer la langue, c'est intéressant. Mais pourquoi pas aller encore plus loin et traduire des films ou des séries d'animation bien connues de tous en langue corse? Alors là, c'est encore une nouvelle corde à votre arc.
Ben, disons que... puisqu'il faut revenir sur son parcours, c'est une occasion de réfléchir à son parcours. Il se trouve que lorsque j'ai travaillé avec René Siachi, Sampiero Sanguinetti, au projet de France 3 Corse qui allait devenir Via Stella, ma mission, c'était, on m'avait dit, regarde ce que tu peux mettre ce qu'on pourrait mettre sur une chaîne comme celle-là. Ça, c'était au début des années 2000. Et comme sur le service public, on a la chance en Corse, depuis les années 80, avec le service public audiovisuel, aussi bien RCFM que France 3, que la langue soit quelque chose de tout à fait naturel, qu'elle ne soit pas cantonnée à des cases, qu'on puisse passer d'une langue à l'autre, etc. etc. Je me suis dit, mais pourquoi sur une antenne comme Via Stella, on ne pourrait pas voir une série américaine en Corse? Est-ce que ce n'est pas une façon de que la langue soit fasse partie du paysage, non pas comme on le voit dans certains endroits avec le titre, le nom des salles qui est écrit en Corse, ou la signalétique bilingue qui est souvent des alibis. En fait, je me dis, pour qu'on soit dans un bain linguistique corse naturel, est-ce que c'est pas une occasion d'avoir une chaîne de plein exercice, de faire des choses, de doubler des séries, parce qu'on n'aura jamais les moyens, de toute façon, dans un petit territoire comme ça, de créer des fictions, des films, ce sera forcément marginal par rapport à la grosse machine de l'industrie, notamment cinématographique.
Avec une cible, le grand public.
Avec une cible, la jeunesse.
Ouais.
Et le grand public.
Ouais. Donc il y a eu Boule et Bill.
Donc il y a eu quelques expériences, il y a eu Boule et Bill. Et puis un jour je me suis dit, si on essayait de faire une fiction, un film de cinéma. Et donc j'ai cherché des choses, parce que pour acheter les droits d'un film,
c'est compliqué.
C'est compliqué, c'est cher, etc., etc. Et il se trouve que la rencontre avec un producteur corse installé à Paris, qui est Jean-Pierre Alessandri, m'a permis d'avoir les droits d'un film qui a été un grand succès au début des années 2000, qui est Vipère au Point, donc l'adaptation d'Henri Troyat. D'Hervé Bazin, qui avait été...
Ça nous donne un indice sur la suite. sur ce que vous allez doubler plus tard.
Et donc, il nous a donné la possibilité de le faire.
Ouais.
Et les ayants droit ont été d'accord pour qu'on le fasse. Et on s'est dit, allez, on va tenter de le faire pour que ce soit un outil pédagogique, effectivement, ouais. pour les adolescents.
On peut dire qui sont les acteurs qui participent? Connu,
alors,
hein.
Il y a un casting.
Il y a Frédéric Poggi dans la voix du narrateur.
Il y a Frédéric Poggi qui est le narrateur. Il y a
On peut Guichimin, le dire ou pas?
Oui, oui, bien
Patricia
sûr. Patricia
Paul.
Il y a Guichimin, Patricia Paul, qui a le rôle délicat de Falcoche. Il y a deux adolescents qui sont formidables, Antoine Parodin et Clémente et Jérôme, avec lequel on avait déjà travaillé pour Boule et Bill. Et puis ensuite, il y a plein de gens qui ont voulu, même symboliquement, participer à ça, à cette aventure-là. Donc, Jean-Claude Acahuia, Marie-Ange Gironi, Henri Olmette, Patricia Gattagé, c'est elle qui a fait d'ailleurs le.
Marina Rebaldi a mis son grain de sel.
Marina Rebaldi aussi. Donc, voilà, on s'est lancé dans cette aventure et j'étais hier au mixage et je pense que ça va être quelque chose de. On va oublier très vite qu'on est en train de voir un film doublé, etc. On va oublier très vite les mouvements des lèvres, etc. Et on va avoir l'impression que c'est tout à fait naturel de voir ce film de cinéma en Corse. Et j'espère qu'on en verra bien d'autres
les labiales,
dans quelques années.
Les labiales, les fameuses labiales. Est-ce que vous permettriez que nous écoutions le petit teaser que vous aviez publié sur les réseaux sociaux, juste pour que nos auditeurs entendent les voix? Alors c'est sûr, on ne peut pas se rendre compte, il n'y a pas les images. Vous êtes d'accord
avec
ou
plaisir,
pas?
Avec plaisir.
Allez.
Une folle, une cochonne. Folle cochonne. Folle coche.
J'étais heureux, mais ma joie n'avait pas de boussole.
Oui. Era felice, ma mo gioia una via bussola. Mi mancava voce agita di mamma.
I movioli mi presento padre Volizza, che rimpiazza Miss Chilton.
Blaise, porta de sa stuva in amogamera. I didelli una nuisone uisca la silinguerno. Miss Caccia dei Guscini da Nuagob, l'istessa bei guerte, basterà una guerta sola. A vostra mamma ne badà d'udro puetti.
C'est bon.
On garde la première alors.
Ouais.
Oui.
Rigerche portano non tai barboliviens e ostri paesani.
You speak English? Oh, fantastic. My name is Kitty.
My name is John.
You speak English? Oh, fantastic.
Buon Natale, signore Gesù. Penso di bada piace.
Chi spaventa sta casa?
Simuelli.
Chi spaventa sta casa?
Ma ricorderà di sempre. Dicono che lui ferma per sempre l'amore di una mamma, ma l'odio di una mamma.
Di una proposta a Fabio, ma.
Je suis pas tranquille, elle l'a acheté. Qu'est-ce qu'il a bien pu vendre?
Ai capito, la con. Caverabini.
E birra, chi porcella?
Una valzaccia.
Una valza, una burcella.
Una valza, una burcella. Valza, burcella. Falgela.
Manco male, falgela. Falgela, falgela.
Falgela. Falgela, falgela. Donc vous avez entendu une séance de travail entre le vrai film et le son, parfois le son coupé que la voix, les commentaires évidemment des techniciens, des producteurs, les pages qui se tournent, et vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux si cela vous donne envie, juste un avant-goût avant de découvrir donc le film Vipère au poing en langue corse.
On a dévoilé là le clou. J'allais dire.
Ouh, je vous dis pas comme ça énervé que les mains de Jérôme.
Quand on a travaillé sur Falcoche, qui est quand même, quand on parle de Vipère au poing, tout le monde pense à Falcoche. Et donc, traduire Falcoche, il fallait vraiment un travail de précision. Et c'est en ça que j'ai une admiration vraiment sans limite pour Patricia Gattagé. Il fallait vraiment un travail de précision. Et un travail sur la langue linguistique pour trouver Falgé, là, pour dire Falcoche avec ce que ça évoque. Voilà,
et l'un des acteurs, donc Clément et Jérôme, il m'y était très agacé en disant maintenant tout le monde va savoir comment on dit Falcoche. Cécilia Cantelli, bonsoir, merci d'être
bonsoir
avec nous
tous.
Dans Toc Toc, c'est toujours un plaisir de vous accueillir.
Plaisir partagé.
Vous êtes descendue dans la rue, comme à chaque fois que vous venez dans cette émission.
Je suis allée dans la rue parler littérature, puisque c'est un sujet qui vous tient à cœur. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, vous avez deux documentaires autour de la littérature qui sont présentés à Artema. Le 5, un sur Jérôme Ferrari, l'autre qui s'appelle Corse de Cases en Bulle. Et donc, j'ai voulu aller discuter avec les gens dans la rue de littérature, savoir ce qu'ils aimaient lire, s'ils connaissaient des auteurs corses et s'ils connaissaient le Goncourt et Jérôme Ferrari. Alors, quelques-uns, comme cette jeune fille, ne sont pas très littérature, mais ils sont sympas quand même.
Un peu, oui, mais bon, c'est un peu. Comment dire ? Pas trop, non.
Que tu connais des auteurs corses?
Pas du tout.
Le prix Goncourt, est-ce que tu sais ce que c'est?
Non.
Et Jérôme Ferrat, est-ce que ça te dit quelque chose comme nom?
Ouais, ça me dit quelque chose, mais sans plus.
Écoutez, oui, mais pas toutes sortes de lectures, bien entendu, comme tout le monde. J'aime les livres, comme vous expliquez, qui sont assez casse-tête, philosophie.
Est-ce que vous connaissez des auteurs corses?
Pas du tout.
Pas du tout?
Non, j'ai honte, mais non, pas du tout. Okay. Il m'est arrivé de lire certains livres, mais je peux même pas vous dire, mais surtout des livres qui concernent ce qui s'est passé avec la mafia, etc. Voilà.
Est-ce que vous connaissez Jérôme Ferrari?
Pas du tout, mais j'en ai entendu parler, mais je le connais pas. Et je crois qu'il me semble qu'il est chez Album, non? Il n'y a pas le livre chez Album.
Qu'est-ce que vous aimez lire comme livre?
En ce moment, Musso.
Est-ce que vous sauriez me dire le prix Goncourt de 2012?
Non.
Si je vous dis Jérôme Ferrari?
Non plus, désolé. C'est assez récent que je me suis remise à lire.
Non, on ne lit pas beaucoup. On lit le journal.
Est-ce que vous savez ce que c'est le prix Goncourt?
C'est pas Ferrari?
Oui. Ah. Est-ce que vous savez le titre du livre?
Je le savais, je ne sais plus.
Oui, un peu.
Qu'est-ce que tu aimes lire?
Les livres, des BD, un peu tout.
Et est-ce que parmi les livres et les BD que tu lis, il y a des auteurs corses?
Non.
Non?
Non.
Tu sais qu'il y a des livres, même des BD d'auteurs corses ou pas du tout?
Oui, oui.
Ça t'intéresse pas?
Pas forcément, parce que le corse, je le parle, mais je sais pas trop le lire, en fait.
D'accord. Tu penses que c'est des livres écrits en corse?
Ouais, voilà.
Oui?
Oui, quel genre de livre?
N'importe quoi, étranger, français.
Est-ce que vous lisez des auteurs corses parfois ou pas du tout?
Oui, oui.
Lequel?
Marco Biancaré, les Jérôme Ferrari et...
Ah, heureusement, on l'a payé, celle-ci. Non, non, c'est vous dire, continuons à faire des émissions comme des livres et des lires ou des documentaires sur Jean-Noël Pancrady ou encore sur Jérôme Ferrari ou sur la BD. Regardez comme le public est réceptif, Jean-Jacques.
Eh oui, et puis en plus, l'exercice du micro-trottoir. C'est un exercice super, super difficile.
Eh ben, il faut féliciter Cécilia Cantelli qui fait un travail remarquable pour cette émission Toc Toc. Merci beaucoup Cécilia.
Et vous retiendrez que donc, si vous voulez voir Jérôme Ferrari, apparemment il est Album.
Oh ben, ça c'est bien, tiens on va y aller.
Voilà. C'est le scoop du jour. Merci à vous.
Il y a des passages de Jérôme Ferrari dans sa salle de classe qui sont absolument délicieux à découvrir dans ce film Une vie après le concours de Sébastien Bonifay. Je n'en dirai pas plus, je suis membre du jury. Donc, je me tais. Je ne veux pas être accusée de quoi que ce soit. Allez, ça c'est pour vous, Donna Summer on the radio, pour radio, pour saluer toutes ces années de radio, Jean-Jacques Thor. Oh, quelle voix vous faisiez à la radio? Bonsoir, c'est Jean-Jacques Thor. Ou Bonazer.
J'étais en duo, mon émission préférée c'était Nota Bene, et en duo avec Marie-Jo Thor. Bonazer à Marie-Jo.
dans Toc Toc, notre invité, le producteur Jean-Jacques Thor, qui présente avec Mécano Prod RN193 de Lionel Dumas-Périgne, Une vie après le Goncourt de Sébastien Bonifay et Corse de Casambule de Maëva Ganac et David Olivesi au festival Artemar et en compétition du film documentaire Corse. Artemar, je vous le rappelle, démarre à Bastia le 5 octobre prochain.
Et je voulais dire, Marie, un truc super important.
Oui.
C'est que il faut vraiment remercier ces festivals corses qui donnent la parole et qui laissent cet espace à la création documentaire corse, parce que ça, je trouve que c'est un formidable espace pour le public au-delà des diffusions de télé.
Parce que c'est sur grand écran, ce sont dans des conditions cinéma. On pense également au Festival de l'âme ou encore à Passion Cinéma et on les salue. Évidemment, parce que cela. D'ailleurs, je le dis au passage, Corse de Casambule sera également à Passion Cinéma.
Voilà. Oui.
Donc je le rappelle à nos auditeurs, j'en avais parlé, mais je vous le dis à nouveau pour celles et ceux qui ne nous suivent pas tous les jours comme Jean-Jacques Thor. Bienvenue à Thomas Bronzini. Bonsoir Thomas.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Jean-Jacques, nous allons jouer avec Thomas qui réalise, quand il veut bien venir, un mash-up. Qu'est-ce qu'un mash-up ? C'est lorsqu'on prend la musique d'une chanson et les paroles d'une autre chanson et qu'on les mélange et que ça donne ça.
Ah, voilà. Donc il faut trouver, bien sûr, la musique. Les deux.
Qui c'est qui doit trouver ?
C'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. On ne sait pas, même moi, on ne sait pas ce qu'il va faire.
Le seul qui ne joue pas, c'est moi.
Voilà.
Attention. Je me présente, je m'appelle Henri.
Le chanteur.
Je voudrais bien réussir ma vie.
Cécilia, allez, paroles.
Être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent.
Et
pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps.
Le chanteur, Daniel Balavoine, et Avalade et Vigadiol, Cécilia.
Cécilia, le problème c'est que je complique
Cécilia,
pas
assez. Cécilia, elle est trop forte.
Maintenant, vous êtes trop fort.
Attendez, Michael, 0, Jean-Jacques Thor, 0, Marie Bronzini, 0, Cécilia Cantelli, 1 point.
Notez bien quand même, parce qu'après on discute les points.
Il n'y a même pas de buzzer dans ce studio.
Il suffit de dire comme a fait Cécilia.
La semaine prochaine. Do respiro iu, imbule di un mo respiro, di quel amor abbassionato, mi ne so scordare.
Tiago, c'est l'air, je crois.
Quanto c'è mini do capelli.
Tiago, quoi di quel a le parole? Et c'est Tiago. Et c'est Tiago?
Non mais oui, mais attendez. Là, vous travaillez en binôme. C'est pas bon.
On interrompt la création.
Attention, refrain. Mineso, mineso scordato, quand'era
Tiago,
c'est génial.
Donc, un demi-point pour Cécilia Cantelli et un demi-point pour notre ami Michael Andréani, puisque lui avait les paroles. Rappelez, c'était...
Oui, j'ai pas entendu.
Minesa Scordato, Feli.
Feli, bien joué.
Enfin, ça fait qu'un demi-point, si je peux
ça
me permettre.
Ça fait qu'un demi-point.
Face à 1,5
Et après, tu peux t'associer, donner tes demi-points donc à Cécilia.
Tractation.
Troisième morceau.
Attention, j'en ai 4 en fait. Je peux en faire 4 ce soir, mais vite. Hein.
Balancer.
Rivego a mio mamma, bella guma trent'anni, con viso fior in petto colti di amadina. Rivego mio avu, in questo cappello nero, che colava in paese, tra mezza le vigne, un fiume di vita, corre troppo in furia, odiano tutte e due.
Michel Malo, le parole, Edith Piaf, la musique.
Il me faut le titre de la chanson.
Moi j'ai suivi les verres au fond du café
qui s'appelle Les Amants d'un
les
jour.
Les Amants d'un jour.
Et voilà.
Moi j'ai suivi les verres au fond du café.
Je vous accorde volontiers un demi-point.
Alors, un demi-point Marie, un demi-point Michael Andréa.
Ranchi quoi avec les points.
Ça fait donc, je récapitule, un point Michael Andréa, un point et demi Cécilia Cantelli, un demi-point votre servitrice. Allez-y.
Alors, c'est là qu'on va vous.
Jean-Jacques, vous êtes toujours avec nous.
Attention, oui, mais
Jean-Jacques, vous n'êtes pas endormi.
Peut-être que c'est maintenant.
Attention.
Votre heure.
3, 4. Moi, je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent.
La fille
je me suis tapant sur son tambour. Sur son tambour. Sur son tambour. Attention. Quand t'es dans le désert.
Quand t'es dans le désert.
Oui, Jean-Jacques.
Jean-Patrick Capdeville.
Longtemps.
Et la musique?
Tu te demandes. L'empressé. C'est Michael Andréani qui l'a dit. Moi, j'ai dit Tostaki bêtement.
Michael, donnez votre point à Jean-Jacques.
Et Jean-Jacques, un demi-point. Un demi-point, donc ça fait un. Enfin, on s'en fiche. Un et demi. Oh là là, Cécilia Cantelli et Michael Andréani sont ex aequo. Quant à Jean-Jacques Thor et moi-même, nous avons un demi-point chacun. Donc on n'a rien d'autre pour les départager,
j'ai
les deux.
J'ai envie de dire bien joué.
Les deux kings.
Non, j'ai rien d'autre là.
Bon, enfin, bah,
je peux vous en faire un.
Non, 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 ils sont ex aequo, tant pis.
Je lui donne un demi-point et prendre deux. Comme ça, allez.
Pourquoi? Parce que c'est une femme. Attention, Michael.
Par galanterie ajaxienne.
Bon, ça c'est très bien. Ça, on accepte
Merci
volontiers.
Merci beaucoup.
Un petit clin d'œil, si vous deviez faire un petit clin d'œil à Jean-Jacques Thor, notre invité, vous feriez quoi en quelques secondes? Un petit bout de morceau.
Comme ça, vite fait.
Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir.
Marie, on va se remettre à pleurer.
Petite fille du soleil, je garde en souvenir. Petite fille du soleil, nos délires.
Ah, c'est trop beau, Christophe, Petite fille du soleil. On rappelle que ces trois films produits par Mécanoprod seront donc sélectionnés pour la compétition du film documentaire Corse RN193 de Lionel Dumas-Périne, Une vie après le concours de Sébastien Bonifay, Corse de Casambule de Maëva Ganac et David Olivez, que nous verrons également à Passion Cinéma. Merci beaucoup Jean-Jacques Thor d'avoir été notre
Merci
invité.
Merci à vous pour cet accueil ce et soir. Pour cette belle mise en lumière de ces jeunes réalisateurs.
On se quitte en musique et comme je sais que vous aimez découvrir de belles choses, Thomas nous propose une découverte, il s'appelle Antoine Ellie. Ce sera un petit bout puisque le temps presse, mais nous l'accueillons avec plaisir. Merci à Cécilia, à Michael.
Merci à vous. Merci.
Et puis à Thomas, merci à Tony et à Simon qui réalisaient cette émission. Au revoir à tous.
Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé, j'ai croisé une rose qui ne pouvait pas